Ce que vous entendez là, c'est les mouettes qui viennent au concert en plein air de la session live de TIFF, une vieillerie de 2023 qui ne vieillira probablement jamais. Ce doux concert a été enregistré Doigts à la mer, qui nous rassemble, habitants et habitantes des rives de la Méditerranée. En ce moment, on entend beaucoup de choses sur notre voisin algérien et c'est souvent sans contexte qu'on écoute les déclarations des responsables politiques sur l'accord franco-algérien de 1968. C'est sans savoir comment ça marche les laissez-passer consulaires qu'on entend qu'il n'y en a pas assez qui sont délivrés. Bref, on manque de savoir et de recul pour bien comprendre tout ça. Alors je vous propose de passer une petite demi-heure dans mon salon avec Baptiste, qui a étudié les politiques migratoires franco-algériennes pour avoir du contexte et se faire son propre avis. C'était une interview un peu improvisée, alors certaines informations méritent précision. Quand on parle du temps de résidence en France approuvé pour obtenir une régularisation, des papiers quoi, rien n'a changé avec la loi de 2025, ça reste comme avec la circulaire Valls. Il faut prouver, avoir exercé une activité professionnelle, salarié, figurant dans la liste des métiers en tension durant au moins 12 mois au cours des deux dernières années, ou bien justifier d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 années en France. On va parler des fameux OQTF, qui ont bien été mis en place sous Sarkozy, mais en 2006 et pas en 2007, comme c'est dit dans l'entretien. Et enfin, le documentaire sur les armes chimiques, dont nous parlerons à la fin. Les armes chimiques utilisées en Algérie pendant la guerre d'indépendance. Ce documentaire s'appelle « Algérie, armes spéciales » et il est disponible sur la plateforme de rediffusion de France TV.
Dans mes sens, je parle de paix, mais je suis prêt à la guerre, le sais-tu? Avec Khalil, on cherche des tuyaux, on en a deux, trois tuyaux pour faire des tubes. Faut déjà en mettre pour que l'oseille se décuple, y'a aucun doute. Et mon rêve c'est que je me salirai pour qu'il reste ses que. Faut justifier mesure draconienne. Je suis ma bague, j'attends pas que le bateau vienne. Que casser comme les lattes du sommier. Mon pays est bien plus ensoleillé. Mais c'est moi qui te vends des l'éolienne. Ça c'est rare, je le ferai pas qu'au lieu. Je me suis senti comme à l'étroit. J'ai compté sur ma bonne étoile. Sans coup d'être solo si tu savais. Tu mérites piscine sur le toit, recevoir virement tous les mois pour toutes les galères que t'as bravées. Quand la vie ne t'en donne pas la force, quand la vie ne t'en donne pas la force, où est le bonheur, elle s'y pule jamais. J'ai dû m'éloigner de Miamor, j'ai dû m'éloigner de Miamor pour me rapprocher. Encore une fois sur une table d'autopsie, je combats mes démons, pas du shadow boxing. Faire le mag comme officine, j'en oublie les DM de ta go toxique. T'as connu galère, je t'offrirai le luxe. Liasse de billets qu'on pense à les ex. C'est pas sur le dos, je crois qu'elle veut nous paxer. Mais j'ai brouillé les proxys, y'avait des brèches, j'ai créé mon accès. Pas trop de détails, la déter en axe. Pas trop les paroles, moi c'est plus dans l'action. Et avec on verra des bixou. Plaisir axé ailleurs, allez, soit augmente la dopamine. Faut s'armer dans le calme, anticiper.
Bonjour Baptiste.
Salut.
T'as fait une thèse sur l'immigration franco-algérienne après l'indépendance algérienne. Et du coup, j'avais envie de te poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on parle des accords de 1968, des accords entre l'Algérie et la France sur l'immigration en ce moment, et que tu nous expliques un peu l'histoire des accords de migration entre la France et l'Algérie. Alors d'abord, pourquoi est-ce que d'un coup on parle de ces accords de 1968 ?
En gros, dans l'histoire de la dénonciation de ces accords dans le débat public français. J'ai l'impression que ça remonte à une note qui a été produite pour une fondation qui s'appelle Fondapol, qui est une fondation d'extrême droite qui a publié beaucoup de choses contre ce qu'ils peuvent appeler la submersion migratoire en Europe, quoi. Et donc du coup, il y a Xavier Driancourt, qui est un ancien ambassadeur de France en Algérie, qui a été ambassadeur deux fois dans les années 2000 et les années 2010, qui a publié une note disant qu'il fallait dénoncer cet accord. Donc la note, moi je l'ai lue, c'est un truc qui est assez... Il y a plein de contresens historiques, juridiques. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a aucune culture historique de ce qu'a été la relation franco-algérienne et qui sait assez mal de quoi il parle. Mais voilà, il perçoit ces accords comme un problème et il appelle à les dénoncer. Xavier Driancourt, c'est aussi quelqu'un qui, après, a servi de conseiller diplomatique pour l'ORN pendant la dissolution, là, récemment, quoi. C'est une idée qui a été ensuite reprise par Édouard Philippe et par différentes personnalités politiques du centre ou de la droite, voire de la droite radicale. Et
du coup, les accords d'aide de 68 et en 62 à l'indépendance avec les accords d'Évian, c'était d'autres accords migratoires qui étaient conclus.
Ouais, en fait, t'as une clause dans la déclaration de garantie des accords d'Évian qui prévoit que tout Algérien muni d'une carte d'identité est libre de se rendre en France. Ça, c'est la citation officielle de ces déclarations de garantie. Et à l'époque, il y a des droits de circulation très étendus pour les Algériens en France et pour les Français en Algérie, parce que c'était la manière qui avait été trouvée par les négociateurs des accords d'Évian de gérer ce problème-là, quoi. Une des craintes, c'était que les Européens d'Algérie, pour la partie française, c'était que les Européens d'Algérie n'aient plus accès à leurs terres et soient dépossédés de leurs droits. Donc c'était important qu'ils aient toujours cette liberté de circulation. Et aussi pour les Français, c'était une manière de faire passer des dossiers un peu plus chauds, comme le maintien des essais nucléaires dans le Sahara pour les 10 prochaines années. Le maintien de bases militaires françaises aussi sur le territoire algérien. Donc en fait, il y avait pas mal de clauses des accords d'Évian qui contrevenaient à la souveraineté algérienne. Et donc ça, c'était aussi une manière de faire passer la pilule, quoi.
Et ces accords sont respectés ?
Oui, c'est respecté les 6 premiers mois. En gros, l'idée, c'était que à la fois les Européens et les Algériens en Algérie et en France, ils avaient tous les droits de s'y rendre sans obstacle à leur liberté de circulation. Du moment qu'ils faisaient pas de politique. Donc il y avait l'idée de... Ils bénéficiaient de tous les droits, à l'exception des droits politiques. Très vite, dans le sens Algérie-France, il y a des contrôles sanitaires qui sont mis en place, qui sont prévus par aucune loi, aucun texte juridique, aucun accord international, où en fait, les travailleurs algériens, enfin les Algériens qui veulent se rendre en France, sont testés à différentes maladies, tuberculose, syphilis, qui sont considérées comme des maladies apportées par de l'étranger, quoi. Et donc t'avais l'Office National de l'Immigration qui effectuait ces tests sanitaires dans d'autres pays et qui là les appliquait illégalement à Marseille, dans les locaux, dans des locaux commerciaux à Arinc, qui ensuite ont donné lieu au premier centre de rétention administratif français. Et donc les personnes qui étaient refoulées à ce contrôle sanitaire-là, elles étaient hébergées dans ces locaux, et le lendemain, elles prenaient le bateau dans l'autre sens, mais le premier bateau pour l'Algérie, indifféremment de sa destination, que ce soit Oran, Alger, etc. Ça donnait un espèce de bordel monstre pour gérer ces refoulements. Des fois, t'avais des bateaux avec 200 Algériens qui étaient refoulés. Et, dans les archives de l'époque, le ministère de l'Intérieur français, il se rend compte du problème que ça pose, il dénonce le côté trop, je cite, « visible » de ces opérations, et du coup, ils cherchent à ce que ce soit régulé de manière un peu différente.
Est-ce que c'était toujours juste les renvois ? Est-ce qu'on renvoyait des gens qui avaient vraiment la syphilis, vraiment la tuberculose ? À part le fait que des gens ont dit que c'est forcément des maladies qui viennent d'ailleurs.
Je pense qu'il y avait une partie qui était vérifiée, mais il y avait aussi, parmi les critères de l'époque qui étaient appliqués, les incapacités fonctionnelles visibles. Donc c'était l'idée de, à l'œil nu, on pouvait voir si une personne était apte au travail ou pas, quoi. Clairement, il y avait des aspects très discriminatoires dans l'application de ces accords. Avec mon œil d'aujourd'hui, j'ai été surpris de voir qu'effectivement, il y avait un taux de tuberculeux important dans les populations algériennes de l'époque. Parce qu'il y avait des questions de malnutrition, qui s'expliquent aussi par les conditions sanitaires dans lesquelles la population algérienne, elle, vivait. Mais très clairement, du côté français, il y a l'idée d'appliquer des quotas, quoi. D'arriver à un certain chiffre de refus pour mettre la pression sur l'État algérien pour qu'ils acceptent de signer d'autres accords de main-d'œuvre. Donc en fait, ils prennent un peu à cette époque-là les travailleurs algériens. Ils les prennent comme une monnaie d'échange, quoi, pour forcer la diplomatie algérienne à signer un accord. Ça, c'est un mouvement qu'on retrouve un peu dans toutes les décolonisations. Il y a toujours des droits de circulation étendus qui sont octroyés aux anciennes populations colonisées, et on trouve les mêmes droits qui sont donnés dans le cadre du Commonwealth britannique et à d'autres ex-populations colonisées, mais clairement, l'ennemi numéro 1 du ministère de l'Intérieur à l'époque, la communauté étrangère dont le ministère de l'Intérieur français veut le moins en France à l'époque, c'est les Algériens. Ils font une fixette là-dessus, il y a pas mal de travaux qui ont montré qu'il y avait beaucoup de clichés, de stéréotypes autour de cette population qui était réputée délinquante, malade, oisive. Ils étaient accusés d'un peu tous les torts, quoi.
Donc là, on en était à 1962, les accords qui n'étaient pas forcément respectés, du coup, avec des quotas qui étaient mis en place, mais qui n'étaient pas vraiment officiels. À un moment, ça s'officialise.
Ouais. très vite, en gros, il y a le ministère de l'Intérieur français qui se rend compte que c'est un problème, qu'il y ait des opérations aussi visibles de refoulement, etc. Et donc, du coup, ils poussent à ce qu'il y ait des accords qui soient signés. Ils mettent en place des contrôles sanitaires reconnus internationalement. Ces contrôles sanitaires, ils sont gérés par les médecins français, mais c'est l'État algérien qui organise tout le reste des processus de sélection et d'acheminement aussi des travailleurs face aux médecins français. L'idée, c'est que ça fasse moins de vagues, quoi. Le problème de ces accords de 64, c'est qu'il y a très peu de clauses concernant le droit de formation des travailleurs, les garanties de logement. À l'époque, t'as beaucoup de population algérienne en France qui vit dans des taudis, quoi. Enfin,
les bidonvilles de Nanterre.
Ouais, notamment, mais il y a aussi tous les garnis hôtels, on appelle ça à l'époque. C'est des hôtels parfois gérés par des privés. C'est insalubre, quoi. Et donc, il y a plusieurs mairies, notamment à Grenoble, mais aussi à Gennevilliers, dans des mairies communistes, où en fait, le maire utilise son droit de police pour reprendre ses hôtels garnis, ses foyers hôtels, pardon. J'ai oublié le terme, c'est un truc comme ça. Et donc, du coup, il les municipalise en y mettant plus de moyens. Il y avait des grosses mobilisations autour de ça, à Grenoble notamment. Donc ça, c'est un point qui pose problème. L'autre point qui pose problème à la partie algérienne, c'est que, et c'est surtout ça qui ressort dans les comptes rendus diplomatiques de l'époque, c'est que l'État français fixe de manière unilatérale le contingent, donc c'est le terme qui est utilisé à l'époque, de travailleurs algériens autorisés à se rendre en France tous les 3 mois ou tous les 4 mois, tous les 6 mois. C'est une durée qui varie un peu tout le temps. Il n'y a aucune garantie pour l'État algérien du nombre de personnes qui peuvent être autorisées à se rendre en France. L'État algérien est censé, en parallèle, contrôler les touristes, les flux de touristes, et du coup refuser les Algériens qui veulent se rendre en France avec un visa touristique, mais avec des fins de travailler. Et du coup, c'était un moyen pour l'État français de sanctionner le travail de l'État algérien, quoi, de dire s'ils avaient bien fait leur travail ou pas, et octroyer plus ou moins de quotas de travailleurs algériens autorisés à se rendre en France. Mais voilà, en fait, c'était des contingents qui étaient fixés pour des durées très courtes. Et en 68, il y a un nouvel accord qui est signé, et qui autorise 35 000 travailleurs algériens à se rendre tous les ans, pendant 3 ans, en France. Et du coup, c'est un chiffre un peu plus conséquent, qui respecte un peu plus l'ancienneté des circulations franco-algériennes, et du coup qui autorise aussi un peu l'État algérien à s'organiser, à prévoir une sélection, à fixer des critères en amont, à s'organiser par rapport à ça, quoi.
Alors, tout ça, ça nous mène doucement à 1968, et du coup aux accords qui sont dénoncés en ce moment. C'est quoi les particularités de cet accord ?
Bah, ce qui est dit dans le débat actuellement est vrai, c'est que il y a un accord particulier entre la France et l'Algérie pour traiter de ces questions. On appelle ça, à l'époque, on appelait ça un accord de main-d'œuvre. Donc les premiers articles qui concernent ces questions du contingent, du nombre de travailleurs algériens qui sont autorisés à se rendre en France. L'autre volet important de ces accords, c'est le ministère de l'Intérieur qui poussait à ça depuis longtemps. C'est l'idée qu'il y a un titre d'établissement des Algériens, donc un document qui les autorise à s'établir en France. Donc, en gros, à rester à plus de 3 mois en France, une fois que, du coup, le visa touriste arrive à expiration.
Ouais.
À l'époque, donc, ils mettent en place ce qu'ils appellent un certificat d'établissement. Donc là, tu as une grande campagne de recensement de la population algérienne en France en 69. Ils retirent des cartes de travailleurs qui ont été données aux Algériens et leur confient un certificat d'établissement valable pour 10 ans. Derrière, toutes les personnes qui sont là depuis plus de 3 mois et qui n'ont pas de certificat d'établissement sont illégales et elles pourront être renvoyées, quoi. Parce que du coup, juste avant, le ministère de l'Intérieur mettait en place ce qu'ils appelaient des chasses aux faux touristes. Et donc ils cherchaient parmi la population algérienne les gens qui avaient un visa touriste mais qui n'étaient pas là pour travailler. Et donc dans les circulaires de l'époque, ils visaient particulièrement ce qu'ils désignaient comme des proxénètes, des personnes oisives, malades, des chômeurs, des personnes sans ressources. Il faut savoir que dans ces opérations d'arrestation, il y a des archives qui montrent qu'en fait le nombre de personnes arrêtées était fixé à l'avance. Donc ils disaient, pour les prochaines opérations de janvier, nous pourrons prévoir des arrestations de l'ordre de 15 000 à 20 000 personnes. Donc en fait, mais ça vient dans la continuation du traitement policier des Algériens en France, qui, pendant toute la guerre d'Algérie, qui était problématique encore avant et qui l'était encore après l'indépendance, quoi. Et donc, ouais, la mise en place de certificats d'établissement, ça vient un peu plus régulariser les choses et ça apaise un peu le ministère de l'Intérieur qui avait des revendications importantes à cet égard depuis longtemps. Et après, il y a d'autres volets relatifs au logement, à la formation, au regroupement familial, enfin qui ne s'appelle pas encore comme ça à l'époque, mais voilà, c'est ça dont il s'agit. Et voilà, qui mettent en place des...
Et quand on dit que c'est avantageux pour les Algériens, c'est le cas ? Par exemple, sur le logement ou...
Bah, en fait, non. Il y a eu 3 avenants à cet accord, donc en 85, 94 et 2001. Et chaque fois, les avenants, dans les motifs, l'exposé des motifs qui ont été... qui sont consultables en ligne, ils précisent qu'il faut faire un avenant parce que l'accord franco-algérien est devenu... pas assez avantageux pour les Algériens par rapport aux droits communs, quoi. En gros, c'est pour réactualiser cet accord et inclure les nouveaux droits qui ont été reconnus aux autres communautés étrangères en France. Donc voilà, cet accord, déjà, ça c'est une bonne raison de penser que cet accord-là, il n'est pas si avantageux que ça. Et ensuite, là, on rentre dans des détails de droits qui sont extrêmement complexes. Et en fait, en France, il doit y avoir, je sais pas, 5 juristes qui sont capables d'estimer précisément quels sont les effets de cet accord sur les flux migratoires franco-algériens, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'en gros, dans les grandes lignes, c'est plus facile pour les commerçants, les professions libérales et les chefs d'entreprise algériens de venir s'installer en France. Donc ça nécessite pour les commerçants et les chefs d'entreprise qu'ils soient inscrits à des registres auprès des chambres de commerce françaises. Pour la question des médecins, c'est une question qui est souvent soulevée dans le débat en Algérie. C'est une clause qui permet aussi une fuite des cerveaux algériens vers la France, quoi. Il y a eu pas mal de grèves du côté des médecins algériens pour demander plus de droits de circulation et de pouvoir quitter le pays. Enfin bref, c'est un enjeu assez important pour l'État algérien. Et donc, on peut penser que cette autorisation des médecins algériens à venir s'établir en France, il se fait plutôt au détriment de l'État algérien. Pour ce qui est des médecins algériens, mais comme tous les médecins étrangers en France, il n'y a pas de reconnaissance de leur diplôme, d'équivalence de leur diplôme avec les diplômes qui sont délivrés par l'État français. Et du coup, ça les oblige à exercer dans des conditions qui sont extrêmement déplorables et très compliquées pendant les premières années. Voilà. Donc ça ne se fait pas vraiment à leur avantage à eux. Pour ce qui est des étudiants, les étudiants algériens, ils sont désavantagés par cet accord parce qu'ils peuvent travailler moins longtemps, ils ne peuvent travailler que 18 heures par semaine pendant leurs études. Et du coup, après, il faut rentrer dans le détail de chaque catégorie, mais il y avait des clauses particulières qui autorisaient les Algériens à demander un titre un titre de séjour de 10 ans s'ils arrivaient à prouver une présence continue depuis 10 ans en France. Donc ça, on peut le ranger plutôt du côté des avantages de l'accord de 68. Mais comme les Algériens ne sont pas concernés par l'actualisation du droit français, par exemple, il y a des circulaires qui ont été mis en place par Valls, je crois, en 2017 ou 2018, qui donnent des titres de séjour pour raison de travail à des personnes qui, je crois, arrivent à justifier de 24 mois de travail sur les 36 derniers mois. Et donc, en fournissant des bulletins de salaire, etc., là, les Algériens, ils n'ont pas accès à ça. Donc, en fait... avec l'évolution du droit, en fait, ça continue à vider les accords de 68 de leur substance et à être... Enfin, l'évolution du droit est désavantageuse pour les Algériens, quoi.
Oui, parce que sinon, ça équivaut à travailler pendant 10 ans illégalement.
Voilà, c'est ça. Enfin, s'ils veulent obtenir un titre de séjour conséquent, il faut que les Algériens travaillent pendant 10 ans. Enfin, prouvent 10 ans de présence, alors que les autres étrangers, c'est 2 ans.
Là, on parle des, des laissez-passer consulaires. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit?
Du coup, pour rappeler un peu les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, elles ont été mises en place sous Sarkozy en France, je crois que c'est 2007. Pour une des manières que les exilés ont trouvé de ne pas les rendre exécutoires, c'est de détruire leur papier d'identité et de ne pas être identifiable par le ministère de l'Intérieur. Pour s'adapter à ça, le ministère de l'Intérieur continue d'expulser des gens dès lors que les consulats du pays d'origine supposé de ces personnes les reconnaissent sur des listes, des fois biométriques, de ressortissants, et leur délivrent des laissez-passer consulaires qui autorisent du coup à expulser. Alors c'est vrai que le taux de délivrance de laissez-passer consulaires des Algériens est bas, mais en fait il est bas pour plein d'autres pays, et en fait il n'est pas forcément bas pour des raisons politiques. C'est sûr qu'il y a une partie de contentieux, mais voilà, faut voir comment les relations franco-algériennes évoluent. Il n'y a plus d'ambassadeurs algériens en France depuis 2022. Et en fait, voilà, il y a aussi des raisons qui sont liées à des questions de désorganisation, quoi. Notamment, des fois, les listes que fournissent le ministère de l'Intérieur français, elles ne sont pas considérées comme lisibles. Il y a des questions d'adresser ces demandes au mauvais consulat. Enfin, il y a plein de... Et puis, le fait qu'il n'y ait pas d'ambassadeurs aussi, ça aide pas pour que les consuls arrivent à s'organiser, quoi. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a une focalisation médiatique et politique sur ces questions de laissez-passer consulaires, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les OQTF elles sont pas exécutables. Enfin, nous on est un des pays en Europe qui délivre le plus d'OQTF, et donc des fois on va délivrer des OQTF à des personnes qui sont pas informées qu'elles sont visées par une OQTF, et dans les chiffres qui sont mis en circulation sur le taux d'exécution des OQTF, on ne prend pas en compte les personnes qui sont entrées d'elles-mêmes dans leur pays d'origine ou qui bénéficient d'aide de l'OFI ou d'autres organismes français pour y retourner. On prend en compte que les OQTF qui sont appliqués par le ministère de l'Intérieur français ou au moment où ils mettent des gens dans l'avion, quoi. Une autre source qui fait que les OQTF elles sont pas applicables, c'est qu'il y a des gens qui refusent de monter dans l'avion. Et ça, c'est leur droit, en fait. Enfin, c'est reconnu pour l'instant par le droit français, quoi. Du coup, se focaliser sur la question des laissez-passer consulaires algériens, c'est fallacieux, c'est des relations statistiques qui sont pas prouvées, quoi.
Merci. Est-ce que tu l'as vu, toi, le documentaire là, sur l'utilisation des armes chimiques pendant la guerre d'Algérie?
Non.
Je vous conseille de le regarder, il est sur le site de France Télévisions.
Ok, voilà. C'est sur le napalm ou non, sur d'autres...
Non, sur les armes chimiques plutôt de la Première Guerre mondiale qui ont été utilisées en fait de la France, de l'armée française contre le mouvement d'indépendance. Et en fait, ils ont utilisé plein d'armes chimiques dans des grottes, entre autres. Et du coup, il y a des gens qui témoignent, qui racontent ce qu'ils ont vécu, des enfants qui ont vécu des attaques comme ça, qui ont survécu alors que les gens avec qui ils étaient sont tous morts. Et aussi des militaires français qui parlent de ce qu'ils ont fait pendant la guerre, quoi. Et vu que ça a été censuré, enfin, c'est pas passé en fait sur la télévision.
Ok.
Les excuses, c'est qu'en fait, il y avait déjà des documentaires plus actuels sur la Syrie, par exemple, qui devaient passer. Du coup, ils n'ont pas passé ce documentaire-là. Ils le passeront plus tard, disent-ils, mais en tout cas, il est accessible en ligne. Et peut-être qu'avant qu'il ne soit plus accessible, c'est bien d'aller le voir pour être informé.
Carrément.
Voilà. Mais merci, Bat.
Avec plaisir.